5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'info de ce vendredi. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Édouard Philippe va présider ce matin une réunion interministérielle sur la canicule. Aujourd'hui, 4 départements sont en alerte rouge. Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône et Vaucluse. La préfecture recommande aux parents de garder leurs enfants à la maison. Dans l'actualité, le procès France Télécom. Hier, la fille d'une victime qui s'était immolée par le feu en 2011 a livré un récit bouleversant. C'est ce soir ou jamais, quart de finale France-États-Unis dans cette Coupe du Monde féminine. Les Bleus croient à l'exploit face aux triples championnes du monde. Coup d'envoi de la rencontre 21h, émission spéciale dès 20h sur Europe 1, autour de Lionel Rousseau.
Europe 1.
Le pic de chaleur devrait donc être atteint aujourd'hui dans 4 départements, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault et le Vaucluse, qui sont donc en alerte rouge canicule. À Montpellier, la mairie annonce la fermeture des écoles, crèches, haltes, garderies à partir de midi. Le directeur général de l'Agence régionale de santé de PACA appelle à la vigilance pour ceux qui ont l'intention de se baigner. Il faut éviter l'hydrocution. Attention également aux noyades et aux malaises sur les plages. Reportage à Fréjus où pompiers et secouristes font aussi beaucoup de prévention ces derniers jours. Frédéric Michel.
3 débuts de noyade, des malaises à répétition en 10 jours. Les pompiers de Fréjus-Saint-Raphaël sont intervenus plus de 200 fois sur les 16 km de plage dont ils ont la surveillance. Le lieutenant Franck Cuomo.
On a des personnes qui patrouillent, qui vont au contact des gens toute la journée pour leur donner des conseils, notamment de ne pas s'exposer longtemps au soleil ou de s'y exposer progressivement et de manière raisonnable, d'éviter de s'exposer entre des tranches horaires qui sont 11h et 16h, d'utiliser des crèmes solaires, des chapeaux pour les enfants, bien s'hydrater.
De Fréjus à Saint-Raphaël, 16 postes de garde seront armés tout l'été, soit 38 secouristes qui redoublent de vigilance en ces temps de canicule.
Bonjour madame, vous avez pensé à mettre de la crème aussi?
Oui.
Bon, super.
Oui, oui.
Pensez avec à bien l'hydrater, à le mettre à l'ombre.
Et pour ce couple de septuagénaires venus de la région parisienne, cette présence des hommes en rouge et jaune fluo, c'est la tenue de l'été, cette présence est rassurante.
Oui, tout à l'heure, un pompier est venu nous voir, on a discuté avec lui, savoir comment on allait, comment on se sentait, et on apprécie le soleil, mais avec précaution.
L'an dernier, en France, ce sont 198 personnes qui sont décédées par noyade.
Reportage de Frédéric Michel. Agnès Buzyn va participer au comité interministériel avec Édouard Philippe ce matin. La ministre de la Santé se rendra ensuite dans le Gard et l'Hérault. 76 départements restent ailleurs en vigilance orange. À Saint-Denis, près de Paris, un enfant de 6 ans a été grièvement blessé après avoir été projeté en l'air par le geyser d'une bouche à incendie ouverte par effraction. La SNCF conseille à ses clients de reporter ou d'annuler leurs déplacements dans les zones qui sont touchées par les très fortes chaleurs. Et bonne nouvelle, l'entreprise propose de rembourser ou échanger les billets sans frais. Aurélien Fleureau.
Si vous avez prévu de prendre un TGV ou un train intercité aujourd'hui, demain ou dimanche, vous pouvez gratuitement annuler ou reporter votre déplacement. L'échange ou le remboursement doivent être effectués avant l'heure du départ prévu de votre train et ce sera possible même si vous avez acheté un billet ni échangeable ni remboursable. La SNCF précise que cela peut se faire sur tous les canaux de vente classiques et si la compagnie permet cette souplesse, c'est bien parce qu'elle anticipe des retards, des perturbations qui sont inévitables dès que les températures dépassent les 37 degrés. Et sur les rails, ce sont même 55 degrés qui étaient déjà atteints dans plusieurs villes comme Reims ou Lyon dès mercredi. Par précaution, les trains roulent moins vite pour ne pas abîmer les rails qui peuvent se tordre avec la chaleur. 50 km/h en moyenne de moins sur les lignes grande vitesse. Les TER ne sont pas non plus épargnés. Les retards allaient de 15 minutes à 1 heure, par exemple entre Paris et Orléans, mercredi en fin de journée.
Aurélien Fleureau, en Espagne, des centaines de pompiers et de militaires mobilisés pour tenter de maîtriser un incendie qui a ravagé 6500 hectares en Catalogne. Un drame hier dans le Morbihan, un petit garçon de 4 ans qui était en sortie scolaire a été tué sur le coup par la chute d'une branche à Plumelio près de Pontivy. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.
Un réquisitoire très émouvant hier au procès France Télécom.
Oui, une des filles de Rémi Louvradou qui s'était immolée par le feu en avril 2011 s'est exprimée seule à la barre. La famille de ce père de 4 enfants tenait absolument à témoigner. Raphaël est l'un des fils de la victime. Il s'est confié à Chloé Triomphe.
Il n'y a pas que des noms dans un dossier, il n'y a pas que des numéros. On est des vraies personnes, on existe. Je pense que c'est aussi nécessaire que les prévenus nous voient vraiment, voient la conséquence, physiquement la conséquence de ce qu'ils ont fait. Nos mots sont durs parce que ce qu'a vécu mon père et ce que nous on a vécu après sa mort, ça a été extrêmement dur. C'est pour ça qu'au fond ça nous a fait rire quand un avocat de la défense au début du procès dit on aurait été mieux aux assises pour gérer le nombre de parties civiles. Nous c'est exactement là qu'on voulait les voir, effectivement. Parce que tout ce qu'on a découvert après coup, c'est quelque chose d'organisé, de prémédité, de conduit sur des années. Et nous, on venait dans ce procès et on venait témoigner pour avoir des réponses. Les réponses, on les aura pas. Leur discours, c'est un discours indécent, c'est un déni total, c'est de l'enfumage. Et la deuxième chose qu'on pouvait espérer, c'était que ils repartent d'ici avec une sanction exemplaire. Et ça, on sait d'ores et déjà que ça sera pas vraiment le cas, puisqu'ils vont pas aller en prison.
Témoignage recueilli par Chloé Triomphe. Le faux médecin Jean-Claude Roman sort de prison aujourd'hui après 26 ans derrière les barreaux. Il avait tué toute sa famille en 1993. Il va rejoindre un couvent traditionnaliste de l'Indre et sera muni d'un bracelet électronique pendant 2 ans.
L'homéopathie devrait bientôt être déremboursée. La Haute Autorité de Santé a rendu son avis.
Oui, la décision qui a déjà fuité dans la presse. L'homéopathie, les Français en raffolent. 77% l'ont déjà consommé. Cette décision va-t-elle faire économiser réellement beaucoup d'argent à la Sécurité sociale ? Les précisions de Mélanie Gomez.
Du côté scientifique, c'est tranché. Les experts ont analysé des centaines d'études. Aucune n'a montré l'efficacité de l'homéopathie. Elle doit donc être déremboursée. Maintenant, c'est sur le terrain politique que ça va se jouer, puisque c'est la ministre de la Santé qui aura le dernier mot. Pas tout de suite à cause de la canicule, mais elle s'est déjà engagée à suivre l'avis de la HAS. Du côté des pro-homéopathies, la riposte s'organise. Manifestation aujourd'hui à Paris et Lyon. Chantage à l'emploi. Chez Boiron, par exemple, leader du marché, on affirme déjà que 1000 emplois sont menacés à cause de la chute des ventes. Pourtant, impossible de dire que les Français se détourneront des tubes de granules. Un sondage publié fin janvier montre que 63% des consommateurs ne changeront rien à leurs habitudes. Reste cette question, pourquoi dérembourser l'homéopathie alors qu'elle ne pèse rien dans le budget médicaments de la Sécu ? À peine 126 millions d'euros sur un total de 20 milliards. Eh bien tout simplement, d'abord par principe d'équité. D'autres remèdes comme les anti-Alzheimer jugés peu efficaces ont été déremboursés. Et puis surtout, parce que de nombreux médicaments très chers arrivent sur le marché, notamment des anticancéreux. Donc si tous les Français veulent continuer à en bénéficier, expliquent les experts, il faudra qu'ils renoncent au remboursement de l'homéopathie bientôt, mais aussi demain, peut-être à des centaines d'autres produits aussi peu efficaces.
Mélanie Gomez, le sommet du G20 s'est ouvert ce matin à Osaka au Japon en présence d'Emmanuel Macron, d'Angela Merkel aussi, dont la santé suscite des inquiétudes. Elle a été une nouvelle fois victime de crises de tremblement.
Merci, c'était le journal de Céline Kalban. Céline, dont je n'arrive pas à me dire qu'elle va partir. J'entends encore son rire distingué et sensuel quand je lui chuchotais des mots d'amour dans l'ascenseur. Ah, allez Céline, si tu devais dire notre plus beau souvenir.
Je sais plus, il y en a tellement.
Moi j'aurais dit la fois dans le parking ou sur le capot de la voiture de Catherine. Et bref, non, on se souviendra une autre fois ensemble hors antenne, c'est mieux.
Europe 1.
Oh, bravo. 5h-7h, Mathieu Noël.
C'est toi aussi. C'est historique. Le fact-checking
par l'histoire. On avait dit que ça restait entre nous. Hein.
C'est vrai.
Trop tard.
Tout le capot de la voiture de Catherine Ney s'en souvient. C'était il y a 100 ans, jour pour jour, un traité changeait la face de l'Europe. Fabrice Almeida nous fait revivre la signature du traité de Versailles.
Excellent réveil à tous, il est 6h08. Il est 6h09, Mathieu Noël.
On fait tout de suite un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Un vendredi encore caniculaire.
Mais oui, on devrait encore battre des records de chaleur. D'ailleurs, la température n'a pas beaucoup baissé cette nuit dans certaines villes comme à Fréjus, où il y a 2 heures il faisait encore 30 degrés, 28 à Cassis ou dans les Sables-d'Olonne. Aujourd'hui, c'est dans le sud-est principalement que ces records vont s'établir, avec une vigilance rouge pour 4 départements, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, où on dépassera les 40 degrés jusqu'à 45 attendus dans le Gard. La moyenne pour le reste du pays, dont une grande partie est en vigilance orange canicule, ira de 28 à 39 degrés, un petit peu moins près des côtes de la Manche où on respire mieux depuis le début de cet épisode caniculaire. Il en fera par exemple 26 à Cherbourg.
Merci Céline. Anne Le Gall.
Nous vous demandons aujourd'hui quelles sont vos citations philosophiques préférées. Gecko nous cite du Nietzsche, « Deviens ce que tu es ». Voilà, il évoque aussi
j'avais compris ça.
Une citation.
Non, mais je le dis en toute amitié à Frédéric Nietzsche, je n'ai jamais compris cette citation. Je voudrais qu'il me l'explique. Peu après, 39-21.
Ça va être compliqué. Gecko en cite une autre. Une citation inventée dans un album de Corto Maltese, « Te justifier ne te donnera pas de chameau ».
Ah, voilà. Pourquoi
donc
pas.
Arrêtons de nous justifier.
Une citation de Pascal Sevran, si vous voulez. Vous voulez la citation de Pascal Sevran ?
Et on termine par...
Non, mais elle est vraie.
Elle est vraie, allez-y.
Oui,
allez,
j'y vais, je vais vous la donner, parce qu'elle est magnifique. Tant de vie médiocre, si peu de suicide. Oh, elle est désespérante, mais elle est vraie.
Alors on terminera plutôt sur celle de Mika qui nous écrit avec le hashtag Europe 1. Les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Voilà de quoi méditer.
Et bonne journée.
Merci.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il est le sosie vocal officiel de Gérard Holtz.
Vive le sport sur la 2.
Il est la doublure voix de Gérard Depardieu.
Bon alors, on n'a plus le droit de ploter, bah alors.
Pour fêter la sortie de son livre événement Passion, Jérôme Lacroix imite désormais aussi Nicolas Sarkozy.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Ah, le fait bien, mais où s'arrêtera-t-il ? Tout en continuant son métier de journaliste sportif, voici Jérôme Lacroix pour le Journal du Mondial.
La Coupe du Monde féminine.
L'événement foot est sur Europe 1.
Au sommaire ce matin, oh, je le devine.
L'ambition, le rêve face à la référence. France-États-Unis, quart de finale. L'immense rendez-vous pour les footballeuses françaises et soirée spéciale sur Europe 1. L'attente est immense. Les supporters attendent de basculer dans une ferveur encore jamais connue. Et puis, il sera peut-être temps de leur trouver une chanson, Mathieu, à ces bleus. Hein, proposition en fin de journal.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1. Radio officielle.
C'est vous qui allez faire une proposition de chanson ? Vous avez écrit quelque chose ?
C'est étayé. Mais non, pas du tout.
Ah non.
Non, non, vous avez
découvert ça.
USA, USA, ils sont attendus 10 000 ce soir au Parc des Princes, les supporters de Team USA, des groupes d'amis, des familles, parce qu'outre-Atlantique, il se vit ainsi le soccer au féminin, sport numéro 1 chez les filles qui pèse près de 2 millions de pratiquantes contre 185 000 en France, on voit la différence. Et puis cette équipe des États-Unis qui possède The Palmarès, 3 Coupes du Monde dont la dernière, France-États-Unis quart de finale, l'affiche la plus clinquante depuis le début du mondial, digne d'une finale.
Et c'est sans doute l'un des plus grands rendez-vous de l'histoire de l'équipe de France féminine.
Ces Françaises qui ne sont pas favorites, elles n'ont jamais battu les Américaines dans un grand rendez-vous. Une seule confrontation en Coupe du Monde, 2011, demi-finale et défaite 3-1. Mais aujourd'hui, on joue à domicile, dans un Parc des Princes comble. Le groupe de supporters, les Irrésistibles Français, a d'ailleurs prévu une animation dans les tribunes, un tifo, comme on dit, avant le coup d'envoi. Alors si aujourd'hui, elles ne sont pas tout bleu, tout flamme, elles ne le seront jamais, les joueuses, la sélectionneuse Corinne Diacre, n'aura pas besoin de se répandre en mots lors de la traditionnelle causerie d'avant-match.
Les filles, elles sont au taquet. Elles sont au taquet, donc... Nous, on a des choses à prouver aussi. On sait que depuis le début, on n'est pas parfaite. Maintenant, vous savez, un match, ça reste un match. Il suffit qu'il y en ait une qui ne soit pas au top de sa forme pour mettre le collectif, parfois, en difficulté.
25 France-États-Unis dans l'histoire. 17 défaites françaises pour seulement 5 victoires.
Oui, mais ça tombe bien, cette 5e victoire est toute récente.
En janvier dernier, 3-1 en match amical. Ce jour-là, on l'a fait, disait hier Corinne Diacre, qui entend capitaliser au moins au niveau psychologique sur ce succès. Et ce jour-là, eh bien, on avait vu une joueuse taille patronne, Kadi Diatou Diani, l'attaquante numéro 11. Elle avait marqué 2 buts. Diani, 24 ans, bien souvent en rampe de lancement à des attaques françaises sur son côté droit. Elle se souvient de ce temps où gamine, à la cité des combattants de Vitry-sur-Seine, elle tapait ses premiers ballons.
Quand j'étais jeune joueuse, je ne connaissais pas l'équipe de France. C'était pas du tout médiatisé. Donc je ne savais pas qu'il y avait une équipe de France. C'est dommage, je trouve. Une fois arrivée à Clairefontaine, là, j'ai découvert qu'il y avait une équipe de France. Et aujourd'hui, ça a quand même beaucoup changé. Là, les petites filles, elles peuvent s'identifier à une joueuse. Donc c'est quelque chose de formidable.
Et Kadi Diatou Diani est attendue ce soir dès le coup d'envoi, aux côtés en attaque de Jenny Le Sommer, Valérie Gauvin et sans doute Gaëtan Tiné, qui devrait retrouver une place de titulaire. Côté américain, on attend les stars Megan Rapinoe, Alex Morgan. Et puis l'invité surprise pour les deux. Quand là, la chaleur, 27 degrés prévus au coup d'envoi.
France-États-Unis pour une place en demi-finale du mondial à vivre en intégralité sur Europe 1, une soirée spéciale qui démarre dès 17h avec Mathieu Bellière en direct aux abords du Parc des Princes.
Et les gagnantes de cette confrontation affronteront en demi-finale les Anglaises, tombèrent hier soir 3-0 des Norvégiennes. Et si les Bleus vont encore plus loin, Mathieu, bah, il sera peut-être temps de leur trouver une petite chanson. Et figurez-vous que, quand on se balade un peu sur Internet, deux titres sortent du lot en ce moment.
Sélection féminine.
Il y a celui la sélection féminine de la rappeuse Juste Chani. Et puis il y a ça aussi. On est ensemble de
c'est
la chanteuse de Bondy, Chérine. Cette chanson qui a déjà été relayée sur les réseaux par certaines joueuses de l'équipe de France.
Ah, bon, bah, alors, si c'est leur choix. Bah, si c'est leur choix. Ah, oui.
C'est tout.
Mais on peut avoir plusieurs chansons aussi.
Oui, bien sûr. Vous pouvez en inventer une aussi.
Ah bah, mais on va s'y mettre. On va s'y atteler pour lundi. La chanson sera produite. Merci. C'était le Journal du Mondial avec Jérôme Lacroix. Et tout de suite, on retrouve celui dont hier la marinière a fait débat dans la rédaction. D'aucune mauvaise langue affirme ainsi que, je cite, qu'il était plus équipé pour la pêche aux moules à Saint-Malo que pour présenter une chronique histoire sérieuse. Une chose est sûre, déjà viril naturellement, avec ce petit Saint-James, Fabrice Dameda était encore plus mâle. Ou presque.
T'as laissé ton voilier dehors ?
Mais j'ai un 3 mars.
Il a un 3 mars ? On retrouve Fabrice Dameda.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dameda.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Aujourd'hui, le 28 juin, il y a 100 ans, était signé le traité de Versailles. Quelle signification historique donner à ce centenaire ?
Bah écoutez, le 28 juin 1919 à 15h, les délégations diplomatiques des pays participants à la Première Guerre mondiale se sont retrouvées à Versailles, au château. C'est là, dans la Galerie des Glaces, que va être signé le traité. Ce texte met un terme à la grande guerre après l'armistice, rappelez-vous, qui avait signé l'arrêt des combats le 11 novembre 1918. On impose aux deux délégués allemands toutes les clauses, sans discussion. Car après des mois de négociations, les vainqueurs ont tranché. Les vrais décideurs ont été le chef du gouvernement français, Georges Clemenceau, le premier ministre britannique, David Lloyd George, et enfin Woodrow Wilson, le président américain. Ce sont eux qui ont défini les conditions de la paix.
Quels sont les nouveaux points du traité ?
Alors vous vous souvenez, on voyait ça à l'école. Hein.
Ah oui.
Les colonies allemandes sont donc transférées à des pays vainqueurs. La carte de l'Europe, dessus, les grands empires disparaissent au profit de nouveaux états-nations. Adieu au Reich de Guillaume II, à l'Empire des Habsbourg, à la Russie des Tsars, à l'Empire ottoman. Et puis, à l'inverse, naissance de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Finlande, de l'Estonie ou encore de la future Yougoslavie. La France, bien sûr, retrouve l'Alsace-Lorraine. Et enfin, on va créer une société des nations, la SDN, pour que le dialogue remplace la guerre. Ce sera l'ancêtre de l'ONU.
Mais au final, Fabrice, avec le recul historique, le traité a-t-il été un bien ou un mal ?
Ah, vous allez voir, en dictant aux vaincus ces conditions, le diktat de Versailles, hein, comme diront les nazis, est vécu telle une humiliation en Allemagne. Il enclenche une logique qui conduira à la Seconde Guerre mondiale. Et les États-nations, créés de toutes pièces, excitent d'autres nationalismes qui vont éclater plus tard, après 1989, dans les Balkans et en Europe de l'Est. En somme, ce traité explique une grande partie des drames du 20e et du 21e siècle. Mais il a rompu avec la vieille géopolitique de puissance, en posant le principe, avec la SDN, que les États devaient être solidaires et porter ensemble une vision commune.
Merci beaucoup Fabrice Delmeda. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce thème, on peut le dire, ça tombe bien, vous avez fait un podcast dans Au cœur de l'histoire sur les coulisses du traité. Il est en ligne aujourd'hui. Ouais. Comme ça, tout ça est bien
sharp,
fichu.
Sharp.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Debout les copains continue, deux heures d'actu et d'invités qui la font. Et aujourd'hui, Anne, nous sommes à la veille d'une date importante dans le monde des médias puisqu'on fêtera les 70 ans du JT.
On t'embrasse très fort. Bisous, bisous.
Oui, comme disait Roger Gicquel.
La France a peur.
À 6h20, nous recevons Hervé Brusini, véritable mémoire de l'audiovisuel, auteur du documentaire Il était une fois le journal télévisé.
Très bon réveil, il est 6h18. Il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Et oui, on y est, l'heure de vérité pour les Bleus, la Coupe du Monde féminine. Les Françaises affrontent en quart de finale ce soir les Américaines, triple championne du monde, tenant du titre. Coup d'envoi de la rencontre à 21h au Parc des Princes, à suivre évidemment en direct sur Europe 1. Aujourd'hui, les départements de l'Hérault, du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône sont en vigilance rouge à canicule. Jamais un tel niveau d'alerte à la vague de chaleur n'a été activé en France. 76 autres départements restent par ailleurs en vigilance orange. Enfin, l'imam de la mosquée de Brest et un fidèle ont été blessés par balle alors qu'ils sortaient du lieu de culte. L'auteur des tirs, dont on ignore encore les motivations, a été retrouvé mort dans une commune voisine. La police privilégie pour l'heure la thèse du suicide.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce vendredi 28 juin. Et l'actualité, c'est aussi un anniversaire qu'on célébrera demain, les 70 ans du journal télévisé. Bonjour Hervé Brusini.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes journaliste à France Télévisions, où vous dirigez les rédactions numériques. Vous avez reçu le prix Albert Londres pour une enquête sur l'affaire Farewell. Et vous êtes l'auteur d'un récent documentaire sur l'histoire du JT. Votre film revient sur la création de ce moment de télé par un certain Pierre Sabag, le 29 juin 1949. Une première qui aurait pu mal tourner, car Pierre Sabag avait voulu frapper fort d'entrée en proposant des images prises depuis une montgolfière.
Eh oui, figurez-vous qu'il avait déjà fait ça à la radio, comme vous si j'ose dire, 3 ans avant, en 1946, et il s'était crashé près de Bordeaux. Et là, il refait le coup, si j'ose dire, en 1949, où il se dit, là franchement, si je prends une montgolfière et que je montre tout Paris, ça va être génial. Sauf que, à 40 km d'Orly, il se crache, et là, il provoque un incident majeur, les avions, les usines, tout ça est bloqué parce que il y a la ligne à haute tension qui a grillé et donc le journal télévisé commence par une catastrophe provoquée par la télé elle-même.
Ça aurait pu être le premier et le dernier JT. Finalement.
Ah, absolument. Et le caméraman qui était avec lui, Vakevitch, a tout tourné jusqu'au moment où ils prennent feu. Je parle de l'engin, bien sûr. Et donc, non, ils ont frisé tout à fait la catastrophe. Ouais.
Alors, dans les premiers temps, le JT durait un quart d'heure tous les jours. Pas de présentateur, mais des journalistes qui font leurs commentaires en direct. Comment est venue l'idée du présentateur qui ensuite incarnera le JT ?
Eh bien, l'idée du présentateur, en fait, c'est une idée américaine. C'est une idée qui vient du fait qu'on est sponsorisé, que par exemple aux États-Unis, trois mois avant, c'est Camel qui finance le journal. Et c'est
Camel,
le Camel,
la marque de cigarettes.
La marque de cigarettes. Et donc le présentateur qui
notre
est
époque.
Le monsieur censé fumer et dire « c'est génial !» Et donc, en même temps qu'il vend l'info, il vend le produit. Et d'ailleurs, le week-end, il ne vend plus des cigarettes, il vend des voitures Plymouth et il y a des petites voitures devant lui sur le plateau.
On découvre aussi dans votre documentaire comment les premières interrogations déontologiques sont apparues, notamment durant une retransmission des 24 heures du Mans. Les téléspectateurs ont assisté en direct à une sortie de route d'une des voitures. Il y a eu 84 morts, c'est ça le chiffre ?
Ouais, peut-être même 89, mais peu importe.
Comment les équipes ont réagi alors ?
Et les équipes... extraordinaire. Il y a deux caméramans sur place, un qui s'appelle Larriaga, l'autre Buffa. Rebuffa déclenche, il n'a jamais su pourquoi, 3 secondes avant le passage de la Mercedes, elle explose, elle fauche les gens à l'intérieur de la tribune, c'est une horreur, on montre ça, et bien sûr les gens sont stupéfaits, ils se disent mais c'est terrible cette mort en direct. D'où le début de toute une réflexion, vous avez raison, qui va aller jusqu'à une émission incroyable qui va s'appeler « La caméra a-t-elle un cœur ?»
Ah oui.
Où il y a François Chalet, le célèbre journaliste qui va devenir célèbre avec Cannes, et qui dit « Sommes-nous des pourvoyeurs en cadavres encore chauds ou autres ? Nous allons vous expliquer ce qu'est le journalisme et pourquoi on s'intéresse à la mort. »
D'où cette réflexion. Et dans votre film, on découvre que les fake news, dont on parle beaucoup aujourd'hui, ne datent pas d'hier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Histoire du Tour de France. Racontez-nous.
Eh ben, figurez-vous qu'il arrive des fois qu'on n'a pas ce qu'on veut quand on est en train de tourner. Ainsi, en 1950, quand ils sont en train de suivre Louison Bobet, Bobet dévale une montagne à toute vitesse, ils le suivent en moto, la moto part dans une ornière et se casse la figure, et il rate Bobet. Alors à ce moment-là, ils suivent, ils remontent en selle, ils suivent un cycliste de loin, et puis ils ne vont jamais s'en rapprocher pour dire « c'est Bobet
». Ah, c'est bon ça.
Et en plus, ils vont, comme ils ont raté l'arrivée, ils vont sortir Bobet qui s'est déjà couché, il est claqué, il en a assez. Ils vont le rhabiller, lui faire embrasser une jeune femme avec un beau bouquet de fleurs et dire que c'est l'arrivée. Voilà.
C'est bien joué.
Anne. Vous nous avez apporté le premier conducteur du premier JT, qui est une simple feuille dactylographiée.
Oui, c'est sa bague qui
historique.
Faisait ça, c'est un document historique. Et on voit là le texte qui est le sien. Et surtout, puisque nous sommes à la veille, pardon, je tremble parce que je suis très ému.
Bah oui, je vois ça.
À la veille du Tour de France, car c'était, en fait, le journal télévisé est branché sur le sport. Et bien, ce sujet sportif, il va être, comme on disait à l'époque, pané à la sortie du laboratoire. Et donc, le truc qui fait qu'ils ont voulu créer le journal ce soir-là, eh ben, n'aura pas lieu parce que le sujet sera invisible.
Et justement, comment la place du sport a-t-elle évolué dans le JT depuis 70 ans ?
Le JT est partie prenante du sport. On parle beaucoup du foot, là, aujourd'hui. Eh bien, vous savez que aujourd'hui, pour filmer une Coupe du Monde, c'est plus de 20 caméras. Il y a 33 caméras de vidéosurveillance. Eux, ils en avaient qu'une en film. Et comme ils ratent la plupart du temps.
Il voyait des enfants dans la rue et il leur mettait des maillots. Et comme il avait vu Louison Bobet, il leur demandait, il disait, voilà Pelé. But de Pelé, magnifique.
Non, ils rataient les buts. Alors, quand ils rataient les buts, ils avaient un gros plan d'un type qui shootait et comme ça, ils disaient, c'est lui.
Merci beaucoup Hervé Brusinet de venir en direct ce matin sur Europe 1. On rappelle votre documentaire, Il était une fois, le journal télévisé qui est disponible en replay sur le site francetélé.fr.
Merci à vous beaucoup.
Merci beaucoup.
Europe 1. Et les 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec le journal de l'inflexible mais juste David Doucan. Puis la météo. J'aimerais vous citer Céline Dacosta puisqu'à 4h du mat, vous avez déclaré officiellement dans l'Open Space si la canicule était une auberge, eh bien, on n'en est toujours pas sorti.
Eh ben non. Il est 6h28, Mathieu Noël.
Céline, nous faisons tout de suite un point sur la météo. 4 départements placés en vigilance rouge canicule pour la première fois.
Oui, depuis la création de ce système d'alerte, c'est la première fois que ça arrive, c'est vrai. Les départements en question sont le Gard, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault et le Vaucluse. 42 à 44 degrés prévus dans ces secteurs. On pourrait même dépasser les 45 degrés. Sur le reste de la France, 76 départements sont en vigilance orange. Une moyenne de 28 à 39 degrés attendue sur ce secteur avec 35 à Paris. Et puis, c'est rapide de vous dire ceux qui sont en vert, Finistère, Côte d'Armor, Manche, Somme, Nord-Pas-de-Calais. Il y fera chaud, mais de façon raisonnable, avec 26 à 29 degrés. Côté ciel, c'est du soleil. Quelques nuages sur la façade atlantique, mais ça ne va pas durer. Puis il restera une poche un petit peu plus voilée entre la Basse-Normandie et le nord de la région centre cet après-midi.
Merci Céline. À suivre sur Europe 1, les 3 fantastiques et le journal de 6h30 du 4e fantastique. On l'a cherché toute la saison, il était là sous nos yeux.
Oui.
David Doucan.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, l'émission qui prend l'info au sérieux sans jamais se prendre au sérieux, véritable bouffée d'air frais en cette journée de caniculaire. Une fraîcheur que l'on doit beaucoup à la candeur d'Anne Le Gall, brillante doublure d'Eva Rock, et qui hier, de plus en plus à l'aise au micro, se laissait aller à une touchante confidence nostalgique. On évoquait l'époque où on enregistrait, souvenez-vous, nos chansons préférées lorsqu'elles passaient à la radio à l'aide d'une cassette. Geste en soi déjà complètement désuet aujourd'hui, mais qui prend une dimension encore plus ringarde avec Anne. Parfois, tu profitais de la radio pour enregistrer ta musique que t'aimais bien sur ta cassette.
Ah ouais.
Puis à chaque fois, je coupais quand il parlait.
Et après, je bombais la cassette avec de la paillette.
Ah ouais.
Ah non, bisous.
Allez, bon, tant qu'on y est, perdu pour perdu, David Doucan, un souvenir d'enfance.
La Pompidou Mania.
Oh la lâche. Ah bah là, vous êtes kids, je pense.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Mathieu Noël.
Le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Ce sera difficile, mais elles peuvent le faire. C'est un quart de finale de Coupe du Monde. Les Françaises affrontent les Américaines. C'est ce soir, 21h, au Parc des Princes à Paris. Ce sera chaud, mais dans tous les sens du terme, la canicule s'est installée. Alerte rouge dans 4 départements du Sud, orange dans 76 autres partout dans le pays. Nous serons à Clermont-Ferrand où l'on suffoque depuis maintenant 5 jours. Et puis, l'histoire étonnante d'une commode. Une commode du 18e siècle. Le château de Versailles vient de l'acheter grâce au legs d'une richissime habitante de Monaco. Les informations de l'or d'Autriche à la fin de ce journal.
Europe 1.
Si c'était facile, ce ne serait pas la Coupe du Monde. Ce soir, au Parc des Princes à Paris, non pas un match, mais un clash. Les Françaises affrontent les Américaines. C'est un quart de finale. Les États-Unis sont favoris de la compétition, mais les Bleus sont puissantes et jouent à domicile. Cyril de la Morinerie.
Sur le papier, les Américaines partent avec une longueur d'avance. Triple championne du monde, tenante du titre, elles n'ont jamais perdu face aux Françaises en Coupe du Monde. Mais les Américaines, comme les Françaises, ont souffert en huitième de finale. Et surtout, les Bleus, preuve de leur progrès constant, ont battu les redoutables Américaines en match amical. C'était en janvier dernier, ce qui donne beaucoup d'espoir à la sélectionneuse Corinne Diacre.
Ce jour-là, on les a quand même battus. Ça doit être une force, malgré tout, pour nous aujourd'hui, de se dire « ben, rien n'est impossible ». Voilà, donc à partir de là, moi j'ai envie de dire, quand on est capable de faire les choses une fois, on devrait être capable de les répéter, donc j'espère que ce sera le cas demain.
Et on se souvient du discours mobilisateur de Didier Deschamps, juste avant l'exploit face à l'Argentine, il y a un an en Coupe du Monde. Battez-vous sur chaque ballon, soyez solidaires. Tout à l'heure, Corinne Diacre devra à son tour, avec ses mots, galvaniser ses joueuses, car il s'agit bien ce soir d'un tournant, une défaite, et le foot féminin français ferait alors du surplace. En revanche, si les Françaises battent ce soir cet adversaire que personne ne veut affronter, elles tiendront leur match en référence et tout deviendra possible.
Cyril de la Morinerie qui sera sur le pont ce soir avec toute l'équipe d'Europe 1, édition spéciale aux abords du Parc des Princes, dès 17h avec Mathieu Béliard, puis à 20h Lionel Rosso nous fera vivre l'avant-match, la rencontre en direct et en intégralité dès 21h. Et nous pouvons le regarder ensemble sur écran géant dans nos studios. Vous êtes invités. Il suffit de s'inscrire via notre site europe1.fr. Le record de chaleur peut être battu aujourd'hui. Il date du 12 août 2003, 44,1 degrés à Saint-Christol-les-Alès et Conquérac, dans le Gard. Le Gard placé en vigilance rouge, ainsi que l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. C'est une première dans l'histoire de Météo France. Les autorités multiplient les messages de prudence. Les préfectures et les rectorats ont conseillé aux parents de garder leurs enfants à la maison. Les événements sportifs prévus dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont annulés. 76 autres départements restent en vigilance orange. Cela fait maintenant 5 jours que la France suffoque. Comme par exemple à Clermont-Ferrand, où notre envoyé spécial Jean-Gabriel Bourgeois passe la semaine. Dans la ville, les touristes cherchent à s'abriter par tous les moyens.
Pause fraîcheur dans la basilique Notre-Dame-du-Port. Annette et Stéphane, des vacanciers allemands, ne sont pas uniquement venus ici pour admirer les chapiteaux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Il fait très chaud, vraiment. Et avec les grands murs, là, ça protège bien.
Dans une journée comme ça, c'est encore mieux. Et c'est toujours un moment de tranquille et de réflexion.
Et de fraîcheur, voilà.
Fraîcheur d'esprit.
Philippe accueille les visiteurs à l'office de tourisme de Clermont. Et pendant cette canicule, la demande évolue. Découvrir la ville, oui, mais en évitant le coup de chaud.
Par rapport aux autres années, voilà, on a un peu plus de demandes
ce type-là. C'est vrai qu'habituellement, les demandes les plus fréquentes se font plus sur des sites touristiques que sur vraiment l'aspect fraîcheur. Là, c'est un peu plus le cas ces 2-3 derniers jours.
Et ce sont souvent des endroits moins fréquentés. Vincent Garnier, le directeur général de l'Office de tourisme.
Ça peut être des souterrains, des endroits ombragés, des fontaines, ça peut être des rivières qu'on a tout autour, des lacs. On va trouver des endroits qui ne font pas partie des flux touristiques classiques, mais qui, à l'occasion de ce type d'aléas, notamment climatiques, vont devenir des havres de paix et surtout des havres de rencontre.
Et le signe que les habitudes touristiques vont devoir s'adapter au changement climatique. Clermont-Ferrand, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
C'est une invitation qui sème le trouble. Le MEDEF a convié Marion Maréchal Le Pen pour son université d'été qui se tiendra fin août. Les réactions indignées fusent de toutes parts, mais le syndicat des patrons se défend d'épouser les idées de la nièce de Marine Le Pen. Anne-Laure Jumet.
L'invité, c'est irresponsable. Laurence Parisot ne décolère pas. L'ancienne présidente du MEDEF, qui a toujours combattu les idées du Front National, le confie à Europe 1. Ils offrent à Marion Maréchal Le Pen une crédibilité nouvelle sur un plateau d'argent. Du côté de la majorité, les réactions sont également vives. Si le MEDEF confirme cette invitation, ce sera 100 mois, assure le député En Marche Roland Lescure. Idem pour sa collègue Olivia Grégoire qui parle de provocation dangereuse. Mais convier la nièce de Marine Le Pen ne veut pas dire être d'accord avec ses idées, se justifie-t-on au sein de l'organisation patronale. On veut débattre du match progressiste-populiste qui se développe partout en Europe, explique-t-on dans l'entourage de Geoffroy Roux-de-Bézieux. Bernard Tapie a d'ailleurs été convié à la même table ronde que l'ex-député FN du Vaucluse, comme un remake du débat musclé entre l'ancien ministre et Jean-Marie Le Pen. On veut entendre tous les points de vue, assure-t-on d'ailleurs au MEDEF, qui entend brasser large pour son université d'été nouvelle formule. Parmi les 250 personnes sollicitées, on trouve ainsi plusieurs leaders du mouvement des Gilets jaunes. La liste définitive sera arrêtée fin juillet.
Anne-Laure Jumet pour Europe 1. Le G20 à Osaka au Japon vient de débuter officiellement. La réunion commence sur fond de fracture entre les dirigeants du monde. La question de l'environnement au cœur des débats. Emmanuel Macron a annoncé qu'il refuserait de signer le pacte commercial entre l'Union européenne et le Mercosur si le Brésil se désengageait de l'accord de Paris sur le climat.
À suivre dans ce journal, l'histoire dramatique d'une jeune chercheuse qui s'est contaminée lors d'une manipulation. Elle est décédée la semaine dernière de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Sa famille attaque son employeur, l'INRA, en justice. À tout de suite.
Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, c'est une histoire tragique.
Oui, celle d'une jeune chercheuse de 33 ans. Elle est décédée la semaine dernière de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les symptômes étaient apparus il y a 2 ans seulement, mais la contamination remonte avec quasi certitude à bientôt 10 ans. Une maladresse pendant une expérience dans un laboratoire de l'INRA, l'Institut de Recherche Agronomique. La famille de la jeune femme a décidé de porter plainte contre l'Institut. Pierre de Cossette.
Une petite pince qui dérape entre les doigts d'Émilie. Ce jour de 2010, au département de virologie de l'INRA, la laborantine de 25 ans coupe en lamelles le cerveau d'une souris infectée par le prion. Mais la pince perce ses gants en latex et lui pique le doigt jusqu'au sang. Pour toute désinfection, on plongera le doigt d'Émilie dans de l'eau de Javel. Manque de formation et d'équipement en amont, prise en charge défaillante après coup. Pour l'avocat de la famille, Marc Ben-Simon, la responsabilité de l'INRA est engagée.
Rien n'aurait dû arriver, Émilie devrait être parmi nous. La faute est totale de la part de l'INRA. Il faut utiliser des gants anti-coupure et après la règle est que la décontamination, s'il y a un accident, doit se faire immédiatement et sur place. Et là, ça n'a pas été le cas. On dit souvent que la priorité des priorités, c'est de couper le doigt, tellement le danger est extrême. Mais en tout cas, attendre 15 minutes avant de décontaminer, et décontaminer comme on l'a fait, il est évident qu'il y a une responsabilité.
D'où cette plainte pour homicide involontaire. L'INRA, de son côté, a promis la transparence. Le pôle santé publique du parquet de Paris est saisi du dossier avec un enjeu primordial, démontrer que la contamination d'Émilie remonte bien à cet accident.
Pierre de Cossette, du service police-justice d'Europe 1. Jean-Claude Roman sort de prison aujourd'hui, après 26 ans de détention, une libération conditionnelle sous surveillance électronique. L'homme, aujourd'hui âgé de 65 ans, s'était fait passer pour un faux médecin de l'OMS et avait été condamné à la perpétuité pour avoir assassiné son épouse, ses 2 enfants et ses parents en 1993. Décision cruciale pour l'avenir de Vincent Lambert. La Cour de cassation se prononce cet après-midi. Si elle annule le jugement de la Cour d'appel de Paris du 20 mai dernier, les médecins du CHU de Reims pourront à nouveau mettre fin aux traitements qui maintiennent ce tétraplégique en état végétatif en vie depuis 10 ans. Et maintenant, nous vous révélons l'histoire d'une commode du XVIIIe siècle, celle de la chambre de la Dauphine. Elle meublait à la fin de la royauté le château de Versailles. À la Révolution, elle disparut. Elle fait aujourd'hui son retour dans les murs du château, qui en a fait l'acquisition grâce au legs d'une richissime habitante de Monaco, avec une exigence que son argent, 20 millions d'euros tout de même, ne serve qu'à acheter toute une série d'objets bien précis, les informations de l'or d'Autriche.
Dans une lettre qu'elle a laissée, cette dame exige que son don de 20 millions d'euros soit exclusivement consacré à l'acquisition de mobilier ayant fait partie du château de Versailles avant la Révolution française. Cette généreuse donatrice était-elle nostalgique de l'ancien régime ? Personne ne le sait, elle a souhaité rester anonyme. Mais le château de Versailles a été vidé d'une grande partie de son mobilier pendant la Révolution. Des meubles ont été détruits, d'autres vendus à des collectionneurs. Pendant des mois, donc, les conservateurs du château se sont mis à la recherche de mobilier. Et aux États-Unis, chez un particulier, ils ont retrouvé cette commode qui avait été livrée à Versailles en 1745 pour le mariage du fils de Louis XV avec une princesse d'Espagne. Cette commode, recouverte de bronze doré avec deux grands tiroirs et dont le prix reste secret, est considérée comme l'une des plus belles du monde. Ce meuble unique va donc retrouver sa place à Versailles, à l'endroit précis où il était sous l'ancien régime, au rez-de-chaussée, près des jardins, sous la chambre de la reine.
Récits et informations signés Laure d'Autriche et Olivier Samin pour Europe 1.
Effectivement, merci. C'était le journal de David Doucan, journaliste qui doit pousser en cette fin de semaine un ouf de soulagement, car David a beau être journaliste, il n'en reste pas moins un homme. Un homme avec ses désirs, ses pulsions. Or, hasard fortuit ou clin d'œil malicieux du destin, celle que nous avons choisie pour remplacer Varrock cette semaine, Anne Le Gall, n'est pas n'importe qui. Aux yeux de David, visiblement, il la connaît depuis bien longtemps.
Toi, tu me regardes en frisant, à fond les ballons. Et Anne, elle me regarde juste avec son regard qui, depuis 15 ans, m'a toujours déstabilisé. Je ne m'en suis jamais caché, Anne. J'essaye d'être discret par rapport à ça, de ne pas t'embarrasser.
De pas en parler à tout le monde. Oh là là.
Céline Descoffet propose d'enchaîner rapidement sur la météo.
Allons-y.
Vous me fatiguez tous.
La météo qui est comme... La météo qui est comme cette relation un peu secrète, très chaude, aujourd'hui. Un vendredi encore caniculaire, on devrait battre des records de chaleur comme hier, c'était le cas à l'échelle nationale. On peut même dire que c'était la journée la plus chaude en France pour un mois de juin. Aujourd'hui, c'est dans le sud-est principalement que ces records s'établiront. Une vigilance rouge pour 4 départements, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. On dépassera les 40 degrés jusqu'à 45 attendus dans le Gard, pour Nîmes notamment, ou encore du côté de Carpentras. La moyenne pour le reste du pays, qui n'est pas dans le Gard évidemment, Carpentras-Vaucluse. La moyenne pour le reste du pays, dont une grande partie est en vigilance orange canicule, ira de 28 à 39 degrés, un petit peu moins près des côtes de la Manche, où on respire mieux depuis le début de cet épisode caniculaire. 26 degrés attendus à Cherbourg.
Merci Céline Dacosta.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, chaque matin, ils vous éclairent avec leur lumière. Ce qui est bien formulé, cette phrase.
C'est bien,
elle n'était pas écrite comme ça à la base, je pense. Les trois fantastiques arrivent. Michaël Darmon nous dévoilera notamment la stratégie de Marion Maréchal, qui accentue la pression sur la droite. Son programme en deux mots :
écologie et alcool.
Non, Céline, il faut écouter un peu plus ce que dit Michaël Darmon quand même. Hein.
Il est 6h43. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Ce sera difficile, mais elles peuvent le faire. C'est un quart de finale de Coupe du Monde. Les Françaises affrontent les Américaines. C'est ce soir 21h au Parc des Princes. Alerte rouge dans 4 départements du Sud. C'est une première dans l'histoire de Météo France. Le record historique de chaleur sera peut-être battu aujourd'hui dans le Gard. La vigilance orange est maintenue dans 76 départements ailleurs dans le pays. Enfin, le G20 à Osaka au Japon a débuté officiellement. La réunion commence sur fond de fracture entre les dirigeants du monde. La question de l'environnement sera au cœur des débats. Emmanuel Macron a annoncé qu'il refuserait de signer le pacte commercial entre l'Union européenne et le Mercosur si le Brésil se désengageait de l'accord de Paris sur le climat.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À l'heure d'accueillir l'équipe des Fantastiques, quintessence du professionnalisme made in Europe 1, j'aimerais d'abord dissiper vos doutes quant à l'état de nos journalistes en cette fin de saison. Des journalistes qui, contrairement aux vilaines rumeurs qui circulent, ne sont pas déjà la tête à Bora Bora, Honolulu ou Pornichet pour les journalistes stagiaires. Non, soyez sûrs que toute la rédaction d'Europe 1 restera mobilisée jusqu'au dernier jour.
Il fait trop chaud pour travailler.
Bord de rosée.
Moi j'aime bien les tangas.
Ouais. Allez, hop, on lève les jambes.
Et sans culotte, carrément rien à branler.
Au moins, resteront zélés jusqu'au bout. Voici les trois fantastiques. Anne Le Gall pour les médias, Axel de Tarlé pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique. Et Mickaël, on commence, comme c'est la tradition, par la politique. Marion Maréchal sera l'invitée de l'université du MEDEF fin août. L'ancienne députée du Vaucluse, qui est sortie de son silence dès le lendemain des européennes, s'inscrit au cœur des enjeux de la droite.
Et oui, vous savez, il y a trois jours, hein, ici même à Europe 1, Christian Jacob, futur probable président de LR, l'affirmait, les digues des Républicains sont solides, pas de discussion avec des représentants du RN. Mais voilà, en dînant avec Marion Maréchal Le Pen, cette semaine, les députés LR de la Jeune Garde contredisent de la plus forte des manières les croyances de Jacob. Marion Maréchal, elle, a lu très précisément la nouvelle topographie politique. La droite chiraco-sarkozyste est en train de couler par le fond. Il est temps donc de réunir l'électorat d'une grande droite. Et lorsqu'on en parle avec elle, elle affiche cette conviction. Le temps du dégagisme à droite est effectivement en train de s'accélérer. Conviction partagée par les convives de ce dîner révélé par Le Figaro et qui fera date. Des élus de droite assument de discuter avec Marion Maréchal et parle recomposition autour d'une communauté de projets, comme par exemple la lutte contre la PMA. Le signal n'est pas anodin, c'est exactement le module de la Manif pour tous qui avait réuni dans la rue élus UMP et Front National, c'était en 2012.
Comment Marion Maréchal compte-t-elle s'inscrire dans le jeu, car Marine Le Pen à la tête du Rassemblement National compte aussi se faire entendre.
Ah oui, alors a priori, on aimerait bien pouvoir vous dire, vous avez aimé la fille contre le père, vous allez adorer la nièce contre la tante. Eh bien non, l'affrontement n'est pas encore prévu à ce stade, parce que Marion Maréchal dit qu'il faut dépasser le RN pour offrir un nouveau projet, traduire, se mettre sur la même ligne que Marine Le Pen. Ça ne l'intéresse pas vraiment, elle s'apprête plutôt à travailler avec une génération de jeunes élus LR qui sont arrivés donc à la députation avec Wauquiez, mais qui depuis le début l'ont dit, il faudra un jour parler avec Marion Maréchal, cette représentant de la droite hors les murs, théorisée par Philippe de Villiers, Éric Zemmour et Patrick Buisson, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Mais ce que l'on constate, c'est qu'en fait, Marion Maréchal accélère son calendrier, parce que la décomposition de la droite va encore plus vite que prévu. C'est pourquoi la chronique de la vie politique française retiendra ce moment significatif. C'était le 2 juin, une semaine après les élections européennes. Laurent Wauquiez et Marion Maréchal étaient à la télévision, tous les deux, à 2 heures d'intervalle. L'un pour annoncer sa démission de LR, l'autre pour définir sa mission, dépasser le RN. Le jour où Wauquiez s'est tu, Marion Maréchal est sortie de son silence. Tout était dit pour l'avenir de la droite.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon, pour cette analyse politique. On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlé. Quart de finale ce soir, on l'a dit, entre la France et les États-Unis dans la Coupe du monde féminine de football. Mais pour TF1, l'équipe de France est déjà gagnante.
Voilà, c'est la grande différence avec les garçons. Avec les filles, on gagne de l'argent, puisque TF1, l'an dernier, avait perdu une quinzaine de millions malgré le carton d'audience pour Coupe du Monde. Eh ben oui, parce que les droits ont coûté 70 millions d'euros.
Et donc, malgré le fait qu'on soit allé en finale, qu'on ait gagné la finale de la Coupe du Monde, ça n'a pas rapporté d'argent à TF1.
La pub n'a pas assez rapporté pour payer les 70 millions d'euros. Alors là, la grande différence, c'est que droits ont coûté nettement moins cher.
Meilleur rapport qualité-prix.
On ne s'attendait absolument pas à ce carton. Donc, TF1 a eu les droits pour 7 millions. Et encore, vous savez, je pensais pas le dire, mais quand M6 avait dit, en 2015, quand ils ont diffusé, ils les ont payés 10 fois moins cher encore les droits. Ils les ont payés 700 000 euros. Donc vous voyez, là, on est passé à 7 millions. Mais en face, il y a eu un carton d'audience. France-Brésil, dimanche soir, près de 50% de parts de marché. La moitié des Français qui... Alors, ils ne s'attendaient absolument pas à ça. Donc là, on a dépassé déjà les 10 millions. Enfin, on devrait dépasser les 10 millions de recettes publicitaires. Ce qui fait que l'opération est gagnante. Et d'ailleurs, à tel point que c'est qu'hier soir, TF1 devait programmer Les Bronzés. Et bien, finalement, ils ont déprogrammé Les Bronzés pour mettre
Angleterre-Norvège.
Voilà. Donc, vous vous rendez compte, le foot féminin, plus fort que Jean-Claude Duss et Popeye.
C'est pas rien.
C'est pas rien. Alors que... Voilà. Donc voilà où on en est.
Et pourquoi cet engouement? Vous le savez, vous, Axel?
Alors, écoute,
c'est vrai que ça marche très fort. Moi, je regarde tous les matchs.
Je vais faire mon sociologue. D'abord, peut-être a-t-on envie de se retrouver, de partager ensemble un moment où l'on voit la France triompher. Évidemment, il y a une résonance avec la victoire des Bleus l'an dernier en 2018. On a envie de revivre la même aventure avec les filles. Et il faut aussi, et ça c'est très intéressant, j'ai eu les gens de TF1 qui ont dit « Mais oui, mais on a tout fait pour événementialiser cette Coupe du Monde féminine. On a eu exactement le même dispositif éditorial. » Avec, de la même façon, révélation de la composition de l'équipe dans le 20h de Gilles Boulot. Ça a été suivi par plus de 5 millions de Français. De la même façon, on fait des grandes soirées avec les mêmes commentateurs. Vous retrouvez la voix de Lisa Radzou, des mêmes séances d'après-match. Et donc, tout ça, ça montre quand même la puissance du média télé qui, effectivement, est capable, à partir de rien, de créer un événement qui rassemble plus de 10 millions de Français. Je trouve que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on ne parle que des sites internet et du triomphe d'Amazon et de Netflix. Si Amazon avait racheté les droits de la Coupe du Monde de football féminine, je pense que personne n'en parlerait. Et donc, tout ça montre que la télé reste un un média puissant, et voilà, la transition est toute faite.
Je ne suis pas d'accord avec vous, Axel de Tarlé. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'effectivement, on peut effectivement féliciter TF1 d'avoir offert la même couverture à cette Coupe du Monde que la Coupe du Monde masculine, d'avoir appliqué les mêmes recettes, avec effectivement Grégoire Margoton, Lisa Razou, les débriefs d'après-match. Mais si la qualité du jeu n'était pas au rendez-vous, on n'aurait pas envie de voir tous les matchs. Moi, personnellement, en tant qu'amateur de foot, je ne pensais pas m'intéresser autant au football féminin. La qualité footballistique des joueuses étant telle, on a envie de suivre ces matchs, et aussi à cause de leur niveau. Donc il faut remercier, féliciter les joueuses avant tout.
Oui, d'accord. Mais encore fallait-il, pouvoir l'exposer. Et je pense que seule la télé est capable d'exposer à des millions de téléspectateurs quelque chose. Un site internet en est beaucoup moins capable.
C'est juste aussi. On a raison tous les deux, Axel.
Voilà.
Anne Le Gall.
Alors après le foot, je vous propose de regarder ce soir un documentaire inédit sur le groupe de musique français le plus connu au monde. 40 ans de scène. Ce groupe détient le record du nombre de représentations au Zénith à Paris. Plus de 60 représentations. Il s'agit du groupe...
Cassave,
leur succès est planétaire car ils ont carrément inventé un style musical, le zouk. Pourtant, pour leur premier Zénith en 85, peu de monde pariait sur eux, explique dans ce documentaire le fondateur du festival Africolor, Philippe Conrat.
Jamais on peut penser qu'un groupe qui vient des Antilles va remplir le Zénith. Et il le remplit un peu tout seul, d'une certaine façon. Il n'y a pas de promo, il n'y a rien et tout. Comment il va y avoir 4000 personnes qui vont remplir le Zénith? À l'époque, c'est une prise de risque. Il n'y a que Kassav qui pouvait savoir, qui sentait que. C'est-à-dire que si quelqu'un avait la curiosité de débarquer au Zénith à ce moment-là, tout d'un coup, il voit un Zénith bondé avec un groupe qui s'appelle Kassav et voit tout le monde en train de hurler et de danser. Donc c'est tout d'un coup l'irruption de quelque chose.
Une sorte de fusion entre la musique traditionnelle des Caraïbes, la musique africaine, le rock et le disco. Le style Kassav, c'est un mélange de tambours, de claviers, de basses et de cuivres, et des paroles uniquement interprétées en créole. Une affirmation identitaire qui va créer leur notoriété d'abord aux Antilles et à Paris, puis surtout en Afrique, explique Alpha Blondy dans ce documentaire.
Kassav n'est pas français, Kassav fait une musique africaine. L'Afrique a épousé Kassav. Avant d'être des Caribéens, ils sont Africains. La même chose est valable pour le reggae. Avant d'être Jamaïcains, ils sont Africains d'abord.
De belles images d'archives, des témoignages variés. Ce film très documenté est un voyage réjouissant dans le temps et à travers la planète. Au-delà des témoignages des membres fondateurs de Kassav, Jocelyne Berroir, Pierre-Édouard Décimus, Jacob Desvarieux, on croise aussi Peter Gabriel, Youssou N'Dour, Manu Dibango. La musique de Kassav dans les oreilles. Kassav, une histoire, c'est un documentaire signé Benjamin Marquet à voir sur France 3 ce soir à 23h05.
Décidément, Anne Le Gall, vous êtes une sacrée ambianceuse. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Mickaël Darmon. J'aime le zouk. Axel de Tarlé, l'équipe des Trois Fantastiques sera de retour lundi aux alentours de 7h moins le quart.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains s'achève bientôt, mais soyez rassurés, la matinale d'Europe 1 arrive précédée de son fidèle débrief. Au programme du jour, les élucubrations météo de Lolo Cabrol, la belle surprise que Nicolas Canteloup avait prévu de faire à Nico, c'est que Nicolas Barré a ruiné comme un gros patapouf. Il sera aussi question, si on a le temps, du décolleté de Marlène Schiappa. Non.
Elle faisait pas partie des Kids United ou un truc comme
non,
ça.
C'est presque ça, Céline. Reste avec nous. Le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale à suivre.
Il est 6h54. Il est 6h55, Mathieu Noël.
Au moment où l'équipe de Debout les copains vous salue, petits auditeurs, séchez vos larmes, petits car auditeurs. La matinale d'Europe 1 arrive avec ce matin une surprise. C'est avec beaucoup d'émotion, et je l'avoue un peu tremblotant, que j'accueille ce matin non pas le remplaçant de Nico Salegas, non pas le joker du remplaçant de Nico Salegas, et non pas la doublure du joker du remplaçant de Nico Salegas, mais le suppléant de la doublure du joker de Nico Salegas, ladies and gentlemen, Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Mathieu.
On est tous très intimidés de partager le micro avec vous. Hélène Zélani, qui pourtant on a vu défiler des stars à ce micro et toute chose.
J'ai le cœur qui bat hyper vite.
Ah, tu m'étonnes. Et oui Sébastien, mon conseil, restez vous-même aujourd'hui et appuyez-vous si besoin sur notre meneuse Céline Dacosta, qui sera pour vous un véritable guide, un sherpa durant ces deux heures. Vous savez, Céline est la mémoire de cette matinale. Bon, sauf évidemment quand elle s'absente pour raison naturelle toutes les 12 minutes. Alors, oui, ça, c'est, évidemment c'est un autre problème. Ouais. Alors, je ne sais pas si quelqu'un vous a prévenu aujourd'hui, une surprise, peut-être une surprise vous attend, mais sachez que si c'est le cas et si vous voulez avoir cette surprise, il faut impérativement éviter toute communication avec Nicolas Barré. Nicolas Barré, notre éditorialiste économique, qui est à la discrétion ce que le yodel suisse allemand est au calme. Et hier a donc à lui tout seul ruiné la belle surprise qu'avait méticuleusement préparée Nicolas Canteloup pour sa dernière en direct avec Nico Saliagas.
Je suis arrivé avec Nicolas.
Pardon ?
Je suis arrivé avec Nicolas.
Nicolas qui ?
Canteloup.
Il est là, Nico ?
Ah, il est là ?
Surprise. Mais je croyais que t'étais au courant, j'ai fait une gaffe alors.
Oups ! La boulette ! Canteloup était furax et ce n'est pas la réduction de 20% sur l'abonnement aux échos que lui proposa immédiatement Nicolas Barret qui l'apaisa.
Mais j'ai désintégré la gamme, moi !
Mais non !
Pendant que je me crève
non,
le
non,
cul
non, non, mais calme-toi,
c'est
Nico. Non, mais calme-toi, Nico. Calme-toi, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'était bien quand même. Bon, à part ça, pas de danger particulier, Sébastien. Si quand vous donnez la parole à Laurent Cabrol, essayez d'enchaîner vite, sinon vous n'êtes pas à l'abri d'un dérapage.
Tu veux que je te lance comment, Laurent ?
Bah, on est au point Q, on attaque le point...
Le point G, allez hop.
Il faut vraiment aller très très rapidement dans vos phrases. Il faut enchaîner. Enfin, comme lors de votre premier emplacement l'autre jour, n'hésitez pas Sébastien à dévoiler le vrai Krebs. Ce môme qui a fait journalisme pour faire plaisir à ses parents, mais qui au fond lui aurait rêvé d'enflammer les planches du music-hall et qui, c'est vrai, le caveau de la République lui tendait les bras.
Etty a disparu, je vous le donne en mille, elle a même été volée. Mais qui est Etty ? C'est la mascotte du mondial.
Et Etty, téléphone maison, non ? Non, ça n'a rien à voir.
Ne changez rien, Sébastien. Vous êtes sur la bonne voie.
C'est un début. Merci
Il beaucoup. En faut.
Merci Mathieu Noël. Bon week-end.
Bonne
à
journée.
Vous.
Mathieu Noël. Tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.